sound.
C. K. K.
Allô, je suis Christophe, qui vous parle sur les ondes de CKMT. Je serai votre hôte pour l'épisode de Legalese.
Another reliable communication channel.
Le droit dans son actualité et qui sert de perspective antilibérale et anticapitaliste. Aujourd'hui, on jase de fiducie foncière d'utilité sociale, donc Community Land Trusts en anglais. Et on jase encore plus précisément de fiducie d'utilité sociale agroécologique qu'on appelle les FUSE. C'est une innovation juridico-légaliste assez récente dans la Provence, qui retire des terres du système de propriété conventionnelle et aussi de l'agriculture conventionnelle. Une fermière vend ou donne sa terre à une fiducie et fixe sa vocation agroécologique à perpétuité. La terre devient donc un genre de commerce. L'épisode se décline en deux parties. Audrey jase d'abord Anne de la ferme Cadet-Russell, qui en 2010 est devenue la toute première fiducie d'utilité sociale agroécologique. Fait que on jase de ce processus-là, de la vision qui l'a animée, des spécificités de la FUSA comparativement à d'autres mécanismes comme le bail emphytéotique ou le zonage. Yo, ce mot est difficile. Emphytéotique. Et maintenant, Anne et Audrey.
Bonjour, je suis Anne de la ferme Cadet-Roussel à Mont-Saint-Grégoire. Je suis copropriétaire avec mon conjoint Arnaud Maillet depuis 12 ans qu'on a pris la relève de la ferme de mes parents, Jean et Madeleine Roussel, qui étaient les premiers fermiers à avoir, cédé leurs terres pour faire une fiducie d'utilité sociale avec leur propriété.
Moi, j'avais aussi envie d'entendre un peu comment ça s'est passé, comme le cheminement, comme qu'est-ce qui leur a donné envie de faire ça.
Bien, il existait des fiducies pour protéger des lacs ou des rivières. Donc, les gens donnaient de l'argent, disaient, le lac qui est ici, il n'y aura pas de bateau à moteur ou il n'y aura pas de coupe dans la forêt autour, tout ça, pour protéger des milieux naturels. Comme une forêt ou ça aussi, il n'y avait pas de travaux d'exploitation d'une forêt. Mais pour un lieu agricole où il y a un revenu, ça, c'était vraiment nouveau. Et vraiment, le travail des bénévoles qui nous ont aidés, puis d'un avocat, puis des métiers connexes des bénévoles qui étaient autour, c'était vraiment important parce que il fallait quand même, c'est ça, innover, imaginer comment un milieu privé pouvait... Il y a des fiducies privées là, qui existent, mais qui existaient aussi déjà avant, de protéger un patrimoine. Mais au niveau agricole, mais ça ne s'était jamais fait au Québec. Il y avait une autre place dans l'Ouest canadien qui était déjà en branle, mais les lois là-bas ne sont pas les mêmes qu'au Québec pour la protection du territoire agricole. Fait que c'est ça. Donc, mes parents avaient déjà une ferme biologique depuis presque 40 ans. C'était vraiment des pionniers dans leur travail. Ils ont été dans les premiers à faire les paniers bio, dans les premiers à faire de la biodynamie. Puis, il y avait vraiment un sentiment que la terre devait continuer à être bio. Et le prix des dettes, en fait, la valeur de la terre a toujours été une dette à la banque pendant 40 ans. Et donc là, le fait de penser prendre leur retraite compliquait un peu la vente de la ferme. Ils ne voulaient pas que ce soit les voisins qui font du conventionnel qui rachètent la ferme pour qu'en quelques mois, ça redevienne conventionnel. Donc, ils ont eu l'idée, grâce à mon frère qui était allé voir une conférence aux États-Unis, justement, sur des land trusts, de vraiment embarquer là-dedans, puis de créer ce modèle-là pour pouvoir sauver la Terre. Ça s'appelait « Sauve ta Terre » au début. Fait que c'était une opération « Sauve ta Terre » où les gens ont construit un contrat qui émettait des parts sociales vertes. Parce qu'au début, on voulait ramasser l'argent, mais si jamais ça n'avait pas fonctionné, il fallait pouvoir rembourser les gens aussi. Donc, on a vraiment fait un compte à part pour la fiducie. Puis là, c'était les gens qui faisaient des dons. Donc, au début, ça a pris 10 ans à réaliser le projet de la fiducie. Donc, il y a 20 ans maintenant, 1 hectare, ça valait à peu près 2 000 $. Donc, ils ont décidé que ce serait une part symbolique. Une famille peut à peu près vivre avec 1 hectare. Là, c'est sûr qu'avec notre empreinte écologique au Québec, ça nous en prend. Dans le temps, c'était 4 ou 5 hectares. Peut-être maintenant, c'est même 6 ou 7 par personne. C'est complètement démesuré, tout ce qu'on consomme par rapport à notre réel besoin de nourriture ou de biens. Mais dans ce temps-là, c'était 1 hectare, 2 000 $. Donc, c'était un peu symbolique de vendre des parts sociales vertes à 2 000 $. Et puis, les gens pouvaient se mettre à 2-3 à acheter des demi-parts ou des quarts de parts. Donc, ça a pris quelques années que les gens s'inscrivent puis bon, soient sensibilisés au fait qu'une terre serait sauvée et resterait en bio. C'était littéralement des dons que les gens faisaient. Après, avec leur passe sociale verte, c'est légable à leurs enfants. Tout ça, c'est quelque chose, c'est un papier qui reste actif, disons, à perpétuité. Puis maintenant, il existe plusieurs modèles pour faire les fiducies. Nous, quand on l'a fait, c'était comme tout était nouveau. Il fallait vraiment faire attention à chaque virgule, à chaque point. Là, les mentalités ont évolué aussi. Au début, la fierté d'un agriculteur, son patrimoine, c'est sa terre. Fait que ce qu'il a pour sa retraite, c'est le revenu de vente de sa terre. Donc là, il faut comme changer un peu les paramètres des consciences pour que la terre devienne quelque chose qu'on emprunte à nos enfants et non qu'on leur... Les Autochtones avaient cette philosophie-là d'emprunter la terre de leurs enfants plutôt que de leur céder. Fait que c'est vraiment un changement de mentalité qui est plus soigneux à long terme de notre planète quand même.
Ça vous met quand même dans une drôle de situation où que vous aussi, si vous comptez être la relève agricole, c'est comme un peu un leg de propriété qui se ferait pas finalement. Fait que je me demande comment vous avez accueilli ça. Là, vous semblez super enthousiaste.
Oui, moi, je suis enthousiaste. Moi, en fait, j'avais vu mes parents travailler dur toute leur vie. Puis, j'avais vraiment pas envie de prendre la relève. C'était comme hors de question que je sois endettée toute ma vie. Mmh. Puis, quand je suis revenue, j'ai travaillé dans d'autres fermes, tout ça. Puis, quand je suis revenue à la ferme de mes parents, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, c'était vraiment dans le but d'aider mes parents à prendre leur retraite. Je venais pas travailler à la ferme. Bien sûr, j'ai travaillé à la ferme, mais en tant que supporter, là, j'étais employée, mais c'était pas pour vraiment travailler, c'était pour permettre à mes parents de réfléchir pour prendre leur retraite. Ça, c'était en 2002. Que moi, j'aurais pas eu l'intention de prendre la relève s'il n'y avait pas eu la fiducie comme moyen de supporter les agriculteurs qui allaient prendre la relève. En fait, moi, c'est ça, je voulais pas m'endetter pendant des années. J'avais même pas pensé à prendre la relève moi-même. J'étais revenue à la ferme pour aider mes parents, mais c'était vraiment une situation temporaire. Je pensais pas avoir envie de reprendre la relève. Puis finalement, la fiducie a pris forme. Puis vraiment, pour moi, mon conjoint et moi, quand on a pris la relève de la ferme, on est devenus des propriétaires superficiaires. Donc ça n'existe pas encore dans les questionnaires. On est soit propriétaire, soit locataire dans la vraie vie. Mais nous, on est des propriétaires superficiaires. On n'est ni locataire, ni propriétaire. Donc, on a droit de faire notre entreprise sur la partie supérieure de toute la terre. En fait, on est propriétaire de la superficie, mais la fiducie est propriétaire du sous-sol, finalement. Donc, il y a deux lots. Avant, c'était des lots côte à côte. Là, on les a mis un par-dessus l'autre, un peu comme des condos. Donc, on exploite notre entreprise comme tout agriculteur le ferait, de façon biologique, bien sûr. C'est la condition pour pouvoir être la relève. Et puis, on utilise la terre à titre gratuit. Fait que ça, pour moi, c'était vraiment précieux. C'était vraiment un soutien, un encouragement, une valorisation de notre travail, de la part de toutes les personnes qui gravitent autour de la ferme, qui ont cru en nous, qui ont cru au projet. Fait que c'était vraiment plein de reconnaissance. C'était touchant d'être les premiers fermiers à bénéficier de cette chance incroyable-là,
ouais,
que de la relève a. Que vraiment, là, c'est sûr que des questions pour la retraite se posent un peu. Beaucoup de fermiers nous disent, mais comment vous allez faire pour prendre votre retraite si vous n'avez pas de fonds de terre, tout ça. Fait que, idéalement, c'est sûr que l'idée, c'est que les fermiers fassent assez d'argent pour avoir des fonds de retraite personnels, en fait, là. Pour l'instant, c'est pas encore notre cas, mais c'est sûr que ça, c'est un petit point un peu tracassant. Mais moi, dans mon vécu de ma jeunesse jusqu'à maintenant, pour moi, si je quitte sans dette, c'est déjà incroyable.
Ouais.
c'est pour moi, j'aurais réussi. Après, c'est sûr qu'on souhaite vendre l'entreprise, puis pouvoir avoir quelque chose pour notre retraite de ça. Mais c'est sûr qu'on travaille à avoir un modèle qui est viable, tu sais.
Ouais. Puis sur votre conseil fiduciaire, là, qu'est-ce que c'est ça? Qui est là-dessus? Comment ça se passe?
Bien, c'est ça. On est passé de Protecteur, qui était l'organisme à but non lucratif qui ramassait tous les dons. Une fois que la fiducie a été créée, bien effectivement, il y a un conseil fiduciaire qui s'est créé en même temps. Nous, notre conseil fiduciaire il est fondé de deux personnes élues par la ferme, deux personnes élues par l'organisme protecteur ou les membres de la fiducie eux-mêmes, et une personne qui doit venir d'un organisme connexe. Donc, des organismes environnementaux ou qui ont des missions intéressantes pour l'environnement.
OK, c'est cool.
Donc, le conseil des fiduciaires, son rôle, c'est de veiller à ce que la ferme reste biologique. Donc, à chaque année, on doit donner nos états financiers, s'assurer que la ferme ne va pas être au bord de la faillite, puis que ce soit réaliste de ce qu'on fait et tout ça. Donc, une fois par année, on donne un compte-rendu des activités de la ferme, comment ça a été cette année, qu'est-ce qu'on prévoit faire l'an prochain, toutes des choses comme ça. Puis, souvent, le conseil des fiduciaires nous soutient si jamais des difficultés de santé mentale ou de financière ou peu importe. Eux peuvent avoir des idées ou faire des levées de fonds ou juste un rôle comme ça. Pour l'instant, nous, notre conseil des fiduciaires est pas mal tranquille. On a travaillé fort au début pour avoir toutes nos choses administratives, un compte en banque, tout ça, tu sais, mais après, une fois la fiducie mise en place, on n'a pas, on se rencontre chaque année, c'est ça, pour surveiller que tout va bien, mais on n'a pas vraiment de travaux sur la planche en ce moment.
Aussi, tu sais, là, maintenant, il y en a plus là, de fiducie, de fusel, des fiducies d'utilité sociale agricole. Fait que, est-ce que quand vous avez, tu sais, quand ça a été lancé, et puis comme cadet Roussel est devenu une fiducie, ça a créé un espèce de tourisme de fermiers et fermières qui venaient voir comme, hey, comment ça se fait, comment on peut faire ça.
Je dirais, les premières années, les gens autour étaient un peu curieux juste de voir, oh, ça s'est fait, tout ça. Là, je dirais, 10 ans plus tard, c'est là qu'on a plus de questions. C'est comme, OK, ça a marché pour vrai, là, ça marche, là, fait comment vous faites, c'est quoi? C'est comme on répond régulièrement à des questions, ça nous fait vraiment plaisir. T'sais, on essaie de garder aussi la ferme ouverte à des visiteurs et tout ça pour que les gens en entendent parler, puis tranquillement que les mentalités de possession changent un petit peu au niveau agricole pour aussi rendre... on rend la ferme accessible pour aussi remercier les gens qui ont soutenu la ferme, même si ce n'est pas les mêmes qui ont donné l'argent, puis ceux qui viennent marcher dans les champs. C'est juste de rendre à la société une fiducie d'utilité sociale, elle a aussi un rôle social. Donc, au niveau de son rayonnement, c'est intéressant que les gens puissent continuer à participer à des récoltes, à des fêtes de la ferme, poursuivre le rythme des saisons, puis un peu mieux comprendre qu'est-ce qu'ils mangent, puis tout le niveau éducatif devient est important pour la majorité des agriculteurs. Le rôle éducatif va de soi. Des fois, on a le goût d'être juste tranquille dans notre champ à faire nos travaux, mais dans les faits, y a une éducation qui vient avec la vente des légumes bio au Québec. Il faut informer les gens, non, des tomates au mois de février. Oui, il y en a des serres bio qui en font au Québec, mais des petits producteurs à notre échelle n'ont pas les moyens de payer du chauffage pour des serres au mois de février. Fait que c'est toute de l'éducation de pourquoi ça arrive de Californie? C'est pas local, puis c'est moins cher. T'sais. Comme toutes les questions qu'on entend de la part des gens autour, tout ça aussi ramène à la fiducie, nous, on est des propriétaires superficiaires, on a l'incroyable chance de pouvoir cultiver sans payer de loyer, sans avoir un endettement pour notre fonds de terre. Tu sais, c'est vraiment quelque chose d'immensément positif. Moi, pour moi, c'est très positif parce que j'aurais pas pris la relève s'il n'y avait pas eu ça.
Oui, mais c'est cool de t'entendre parce que moi, quand... Ben, je suis complètement en dehors de ce milieu-là, là, mais j'imaginais comme le contraire. C'est comme je me demandais si, mettons, les enfants de personnes, de propriétaires qui voulaient faire de leur ferme une fiducie, mais de leur terre une fiducie, je me demandais si ça créait comme un petit, tu sais, une petite insécurité par rapport à comme, OK, mais là, ça, c'est mon héritage ou comme...
Moi, je raconte mon histoire, mais je sais qu'il y a des fiducies qui ont été faites au Québec, pas nécessairement agricoles, mais aussi dans d'autres domaines. Mais ça fait 2-3 fois que j'entends quand même des histoires que, oui, effectivement, les enfants sont déçus, que le parent qui a cultivé la terre la met en pause, finalement, de pouvoir la revendre après, ou limite les actions qui peuvent y être faites, là, tu sais. Fait que oui, il y en a des enfants qui sont déçus de ça, mais en même temps, pour un cas, une fiducie que j'ai entendue, finalement, la personne, à force de travailler avec son parent qui avait fait la fiducie, elle a réussi à trouver le sens que ses parents voulaient, tu sais, à comprendre pourquoi tu veux que ça reste bio, pourquoi tu veux le protéger, tu sais, à voir l'importance que ça a, le travail mis pendant des années, qui en quelques mois peut être complètement détruit. Puis nous, on a eu l'exemple ici, en fait, mes parents, quand ils cultivaient, nous, on a 30 hectares qui est protégé avec la fiducie, mais mes parents étaient locataires de 40 hectares pendant 35 ans. L'autre côté de la rue. Ces 40 hectares-là, le propriétaire avait demandé qu'il reste bio et tout ça, mais il n'y avait pas de clause qui le protégeait vraiment. Et puis, nous, quand on a pris la relève, on s'est dit, mon Dieu, c'est vraiment trop gros, on ne peut pas s'occuper des 30 hectares en plus des 40. Fait qu'on a dû faire le choix de rester juste sur la fiducie, de ne plus pouvoir être locataire d'une terre. Puis pendant quelques années, effectivement, c'est resté bio jusqu'à temps que la propriétaire décède. Et là, en un an, ça a été vendu à un producteur qui a fait du conventionnel. Et toutes les belles haies brise-vent qui avaient 40 ans ont été brûlées. Tu sais, c'est 10 mètres de bande tampon qui, pendant 40 ans, ont eu de la biodiversité, des oiseaux, des chevreuils, toutes sortes de rapaces qui étaient là, qui habitaient là. Puis des gros arbres sur le bord d'une décharge que, tu sais, dans les faits, ça ne dérange pas des machines qui peuvent se faire graffiner. Là, c'était comme des zones non cultivables même, là, tu sais. Puis tout a été rasé. La personne a acheté au mois de novembre, puis fin janvier, tout était déjà brûlé.
Oh my God!
Ça a été comme vraiment un gros deuil pour tout le monde de notre rang où les gens avaient l'habitude de pouvoir aller marcher comme ils voulaient. Ça a été vraiment difficile. Puis j'ai appelé la municipalité. J'ai dit, écoutez, des belles haies brise-vent matures, là, tu sais, le vent ici, on habite dans la plaine, là, le vent, il arrive de des kilomètres à la ronde. Là. Puis là, ça protégeait incroyablement bien les cultures. Les haies, les arbres étaient gros, là, c'était des haies installées. Puis la municipalité a dit, c'est pas des érables, c'est pas des essences protégées. Si c'est pour agrandir la superficie de culture, il n'y a pas de problème. Puis là, j'appelle le MAPAC, je suis comme, c'est vous qui avez donné des subventions pour la plantation de haies brise-vent. Je dis, il n'existe pas des programmes pour la maintenir, pour, nous, on donne des programmes pour la démarrer. Puis Après, si quelqu'un veut l'enlever, il l'enlève. T'sais. C'était comme vraiment décourageant. J'ai appelé le ministère de l'Environnement. Je disais, ministère de l'Environnement, il se passe ça, là, ça brûle là, depuis des semaines et des semaines devant là, des arbres verts, des arbres matures, qui n'étaient pas des vieux arbres qui allaient s'écrouler dans les 10 prochaines années. Là. Puis il n'y avait rien à faire. Il n'y avait personne qui protégeait ça. Puis là, évidemment, la personne a planté du maïs bord en bord. Ils ont mis des drains pour fermer des champs qui sont devenus des champs immenses, là, tu sais, enlever les fossés entre les champs. Fait que c'est comme, c'est-tu vraiment ça qu'on veut, comme une terre qui a été bio pendant 40 ans, qui était entretenue, où il y avait de la vie, qu'en quelques mois, retourne à un désert agricole qui sert à nourrir des animaux, des cochons qui vont s'en aller en Asie. T'sais. C'est toute une réflexion qu'il faut éduquer les gens que, ben OK, on veut que l'agriculture soit pérenne, on veut de la nourriture pour nos habitants de notre région, tu sais. Puis là, qui soutient ça? Tu sais, ben les instances gouvernementales, ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de choses qui protègent vraiment le bio puis le travail des gens qui ont été mis dans une terre. Fait que ça, c'est important. La fiducie, à mes yeux, puis aux yeux des gens qui ont investi du temps, de l'argent aussi là-dedans, de vraiment pouvoir soutenir l'agriculture. T'sais, ça, c'est un acte de soutien très grand. T'sais. Puis il y en a des agriculteurs dans les fiducies du Québec qui ont juste eux-mêmes donné leur terre à la fiducie, qui n'avaient pas d'enjeux financiers, puis qui ont choisi de la donner à la fiducie pour protéger leur travail. Puis ça, c'est quand même vraiment un geste héroïque, mais en même temps solidaire. C'est vraiment quelque chose de qui sort de la boîte, là, tu sais, c'est comme une pensée qui va beaucoup plus loin que la propriété, tu sais, puis c'est ça, on est rendu là, il faut que les gens de la ville qui veulent s'impliquer dans une ferme, dans une terre, tout le monde décide, ah ben moi, je vais avoir ma ferme, mais c'est pas chacun qui doit cultiver son lopin de terre, là, il faut qu'on se mette ensemble pour acheter les terres, parce que d'ailleurs, en Montérégie, une terre, c'est inachetable, puis l'agriculture, l'agriculteur peut pas porter le poids financier comme ça tout le temps, tu sais, en maraîchage, en tout cas, c'est quand même, ça prend des années pour que juste on s'organise, on s'installe, qu'on arrive à se dégager un léger revenu, on s'entend, puis là, après, de dégager un revenu qui va payer les dettes, puis qui va subvenir à notre retraite, c'est beaucoup de poids psychologique pour les familles. Puis là, ben, il y a beaucoup de détresse chez les agriculteurs. T'sais, les gens commencent à l'entendre, à le comprendre. Mais tout ça peut être soutenu aussi par des gens qui sont des citoyens, qui vont rester en ville, qui aiment ça être en ville, qui sont citadins, qui sont heureux de manger des choses qui arrivent de 40 kilomètres ou même 30 kilomètres de chez eux. Puis, tu sais, qui finalement ont une joie, c'est juste les paniers bio, déjà, c'est un soutien, c'est une façon de manger qui est vraiment aidante pour l'agriculteur, tu sais, de vendre à l'avance, puis de pouvoir connaître d'où vient qu'est-ce qu'il mange, tu sais. Ça, quand les choses arrivent de Californie, oui, ça a beau être peut-être bio, mais on ne sait pas comment il est fait leur bio là-bas, on ne sait pas c'est quoi leur cahier de charge, leurs normes. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec, là, si on commence à l'éplucher, tu sais.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup là, d'abord. C'est vraiment cool, c'est vraiment inspirant. Puis ça fait comme du bien là, d'avoir des. Ben, surtout en droit, là, quand on est des perspectives plus progressistes, d'avoir comme vraiment un projet comme quelque chose cool que le droit peut faire. Puis je trouve que tu nous donnes plein de pistes de comme d'action puis de réflexion. Puis c'est cool.
Oui, bien souvent, j'aime dire aux gens que l'agriculture de nos jours de petite échelle, elle ne peut pas exister sans l'implication des gens autour d'une ferme. Beaucoup de gens ont comme activité, loisir, d'aller monter des montagnes, d'aller faire du ski de fond, tout ça, mais venir aider sur une ferme, bénévolement, les agriculteurs, voir ce qu'ils font, prêter la main forte, pas seulement quand il y a des gros travaux, dans tout le long de la saison, comme nous, c'est sûr qu'on fait des légumes à l'année, mais quand c'est le temps des semis en serre au printemps, on est en t-shirt, il fait chaud, c'est agréable. T'sais. C'est pas, oui, c'est des travaux des fois répétitifs par moment de saison qui sont demandants physiquement. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, mais il y a toujours quelque chose à faire. Même si c'est juste préparer des repas pour ses fermiers. C'est vraiment, il y a toujours moyen de s'impliquer. Puis je pense qu'on est rendu à un moment où, oui, les gens cherchent des solutions, veulent bien faire, puis tout le monde a des choses qui se préoccupent pour l'environnement, puis c'est génial, mais à un moment, va falloir faire plus que qu'est-ce qu'on veut faire. Il va falloir que ça nous dérange dans nos convictions pour aller plus loin, puis se rapprocher de la terre, de ce qui nous nourrit, des gens qui nous nourrissent. Ben ça, c'est un soutien qui est vraiment très grand.
C'était Anne de la ferme KD Russell. On glisse ici que Anne mentionnait les paniers bio comme chouette moyen de soutenir son travail. KD Russell livre des paniers de fruits et des légumes bio été comme hiver et à plusieurs points de chute ici à Montréal, sur le plateau, dans le Mile-End et dans Rosemont. Pour s'abonner, c'est en ligne sur le site de la ferme KD Russell ou alors sur le site des fermiers de famille. Audrey a ensuite jasé Hubert Lavallée, du groupe Protecteur, qui avait accompagné la ferme KD Russell lorsqu'elle est devenue fiducie, et qui appuie encore des fermières qui déclenchent ce processus. On jase d'antispéculation immobilière, des fiducies communautaires en milieu plus urbain, et de ses longs commandes, la perpétuité d'une FUSE.
Ben nous, c'est vraiment, moi, mon épouse, le souci de vouloir manger plus sainement qui nous a conduit à nous impliquer avec Protecteur. Et ça s'est fait par l'intermédiaire des paniers bio. À l'époque, ça s'appelait l'agriculture soutenue par la communauté. Et on a eu le bonheur d'avoir un point de chute de la ferme KD Russell, juste au coin de la rue chez nous. Alors, en devenant partenaire de la ferme KD Russell au niveau des paniers bio, on a appris qu'ils étaient dans une démarche de créer une fiducie foncière perpétuelle et qu'ils faisaient une levée de fonds assez originale d'ailleurs, qui s'appelait des parts sociales vertes. Et on a décidé qu'on souscrivait à ce principe-là, qui était d'investir dans un bout de terre qui produirait des légumes pour nous, nos enfants, notre famille, les générations futures à perpétuité. Alors, un investissement qui était plutôt un don, vraiment un investissement dans le bien commun. Et c'est comme ça qu'on est devenu membre de Protecteur. Par la suite, je suis allé à une assemblée générale et on cherchait des administrateurs. Et c'est comme ça que je suis joint au conseil d'administration et Protecteur. Ça, c'était au début des années 2000. Alors, à ce moment-là, le projet était déjà en marche avec la ferme KD Russell. C'était pas le premier projet de Protecteur. En fait, Protecteur a été créé en 1990. Ça fait déjà au-dessus de 30 ans. Pour un projet en Estrie, à Ayers Cliff, qui s'appelait les Jardins d'Apollo. Alors, c'est Paul Thibault, qui était un avocat syndicaliste, qui était allé sur des fermes réservées par des land trusts américains, qui est revenu au Québec avec cette idée-là, et qui, avec les Jardins d'Apollo, a décidé de faire le premier projet de préservation d'une ferme biologique au Québec. Malheureusement, le projet des Jardins d'Apollo n'a pas fonctionné. D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait Protecteur d'Apollo. Et c'est par la suite, en 1997, que Protecteur s'est joint à la ferme KD Russell pour continuer la réflexion. C'est là qu'on a changé le nom pour Protecteur tout court. Et à KD Russell, ça a pris finalement 12 ans pour créer la première fiducie d'utilité sociale agroécologique, pour définir les contours légaux et pour évidemment ramasser les sous parce que le fermier pouvait pas donner sa terre. Mm. Donc, c'est à travers cette levée de fonds, à travers les parts sociales vertes dont j'ai parlé un peu plus tôt, qu'on a réussi à acheter la terre à un prix moins que sa valeur sur le marché. Il y a eu quand même des concessions importantes qui ont été faites par le fermier parce que lui aussi voulait que sa terre soit préservée. Il avait pris une terre qui était en culture, on dit maintenant conventionnelle, nous on appelle ça de la culture chimique, hein, puis il l'a transformé en ferme biodynamique. Et il voulait que ça perdure. Hein. C'est ça vraiment qui est l'inspiration derrière la grande majorité des fujas, c'est de garder une terre en bonne santé, le sol, tout ce qui est vital là-dedans, et de s'en servir pour nourrir une population de proximité. Comme c'était le premier projet de la sorte, ben, tout était inventé, puis il n'y avait même pas à l'époque de notaire qui connaissait ça d'une certaine façon. Il y avait très, très peu de fiscalités sociales qui étaient déjà en marche. Celles qui existaient étaient dans le domaine de l'environnement. Par exemple, la fiducie du domaine de Saint-Bernard dans les Laurentides était une des premières. Mais au niveau agricole, ça n'existait pas.
OK, mais là, je pense que c'est le bon moment pour définir un petit peu c'est quoi une fusaire. Fait que, je répète, une fiducie d'utilité sociale agroécologique. Et que j'avais comme tiré une petite phrase de votre préface du manuel d'anti-spéculation immobilière qui avait été publié par Éco-Société. Donc, vous disiez, des FUSA, ce sont les objectifs d'accès à la propriété pour ceux qui n'en auraient pas les moyens autrement, de partage des risques liés aux aléas de l'économie, de maintien en bon état de l'environnement bâti et naturel, de participation avec la communauté pour le bien commun et de transfert d'une génération à l'autre de l'avantage acquis par l'association. Qu'est-ce que c'est une fusa, puis c'est quoi, mettons, son originalité par rapport aux autres modes de propriété, le plus conventionnel, où ça va être une personne, par exemple, qui possède une terre, puis après ça, cette terre-là peut être alignée, là, qu'on dit, elle peut être vendue à perpétuité.
On débute avec le concept de fiducie. Hein, légalement, une fiducie, c'est une entité qui nous permet de prendre un bien et de lui donner une affectation, qui est sa mission, sa vocation, au bénéfice de quelqu'un dans un certain temps. Alors, la fiducie foncière agricole, au départ, le bien, évidemment, c'est la terre. La vocation que nous, on lui donne à Protecteur, c'est une vocation de préservation. Préservation de la terre, de la ressource au niveau des sols, pour avoir des sols vivants. Préservation de l'environnement autour. Mais aussi, évidemment, une vocation sociale, pour rencontrer les besoins de la population. Donc, une terre nourricière qui va faire des bons produits, des produits sains pour une population locale. Avec ça, on a maintenant la fiducie, le bien, la vocation et les bénéficiaires. Ben, dans le cas d'une fiducie d'utilité sociale, ce qui est très particulier, c'est qu'on n'a pas des bénéficiaires privés. C'est pas des membres de la famille, c'est pas des gens d'une même compagnie qui se donnent des moyens de protéger leur acquis. C'est vraiment une fiducie qui est créée pour amener un bénéfice sociétal. Et d'ailleurs, c'est la seule fiducie qui a pas un but lucratif. Et c'est d'ailleurs aussi la seule type de fiducie où la propriété, le bien n'est plus propriété de personne. Ça se retrouve à être ce qu'on appelle un patrimoine d'affectation. Donc, la fiducie, elle ne vit que pour réaliser la mission qu'on lui a donnée. Puis, on ajoute à ça, parce qu'on travaille en milieu agricole, le concept d'agroécologie. Alors, dans la préface du livre d'anti-spéculation immobilière, on parlait aussi du bénéfice qui est amené à la relève. Parce que, évidemment, dans notre modèle, c'est pas la fiducie qui exploite la terre. La fiducie est là pour protéger la terre et elle laisse l'exploitation à des professionnels, donc à des producteurs, en général des jeunes de la relève. Et à ce moment-là, évidemment, eux, ils ont un bénéfice particulier parce qu'ils ont cet accès à la terre-là à bien moindre frais parce qu'ils n'ont pas besoin d'acheter la terre pour pouvoir la cultiver.
Oui. Est-ce qu'on peut peut-être le mentionner s'il y a des personnes qui écoutent et qui savent pas? Mais en ce moment, c'est comme un des gros problèmes, je pense, pour les agriculteurs, pour les agricultrices de la relève. En fait, il y a les personnes qui n'ont pas de parents agriculteurs. Et je pense à la concentration, mais de la propriété des terres agricoles, puis la science sur ces terres-là qui fait que ça coûte très, 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 très cher. Puis ça rend ça difficile d'avoir un petit projet.
Oui, tu as tout à fait raison. Le prix des terres agricoles n'est plus en lien avec le revenu qu'on peut en tirer. En Montérégie, par exemple, où la ferme Cadet-Michel est installée, on parle de 50 000 $ l'hectare, ce qui est vraiment complètement au-delà de ce qu'un jeune producteur peut retirer là, puis pouvoir payer en plus ces montants-là. Ce qui fait en sorte, comme tu le dis, que les seuls qui peuvent se permettre d'acheter des terres, c'est ceux qui sont déjà propriétaires de nombreuses terres, des gros producteurs, qui rajoutent ça à leur endettement, mais comme ils ont déjà beaucoup de biens, hein, ça leur permet de donner des garanties. Mm-hmm. Ou bien les spéculateurs immobiliers. Hein, on voit ça surtout près des grands centres, des compagnies à numéros, des investisseurs qui achètent des terres en espérant qu'elles soient un jour dézonées. Pour pouvoir les revendre par petits lots à des gens qui veulent se construire des maisons. Alors, ça devient un gros problème pour la relève. Ici, au Québec, on s'est doté d'une loi pour la protection du territoire agricole qui a beaucoup de bons côtés. Mais un des côtés qui est un peu pervers, c'est que pour des jeunes qui veulent avoir accès à un petit lot agricole, on parle de 2, 5, 10 hectares, ben c'est difficile parce qu'on n'a pas le droit de morceler les plus grands lots. En tout cas, on n'a pas le droit facilement. La loi essaie d'éviter ça le plus possible parce qu'elle veut éviter que des gens morcellent des lots pour aller s'installer à la campagne sans qu'ils soient vraiment des agriculteurs. Donc, il y a une bonne vision derrière ça, mais ça a en même temps l'effet que les jeunes agriculteurs ne peuvent pas acheter des petits lots pour faire, par exemple, de la production maraîchère ou de la production de niches ou des vignobles ou des choses comme ça.
Ouais, mais dans le fond, je viens de lire « À ferme impossible » de Dominique Lamontagne, c'est comme, c'est ça sa thèse, il dit qu'il y a comme tout le système comme législatif, réglementaire puis syndical aussi au Québec fait comme en sorte que ben, t'es fortement incité comme fermier à avoir une grosse production comme ben, conventionnelle ou chimique, comme vous dites, parce que c'est tellement cher. Mettons les quotas, t'es obligé de produire si t'as des quotas, puis t'es obligé de produire beaucoup. Fait que,
Et les quotas, c'est un bon exemple. Les quotas, au départ, étaient gratuits.
Ouais.
Hein, alors que maintenant, un quota pour... je pense que ça va en kilo de lait, c'est quelque chose comme 35 000 $ le kilo de
lait. Non, c'est fou. C'est complètement fou.
Au départ, quand l'agriculture, on remonte loin, là, dans les années 50, les années 40, c'était beaucoup de petits agriculteurs qui avaient des petits lots et qui n'avaient aucun contrôle sur la distribution. Donc, les gens qui achetaient leur production les mettaient en compétition, puis les agriculteurs étaient, dans bien des cas, dans la misère. Alors, l'idée de regrouper, de créer un syndicat unique, de les regrouper, d'essayer d'inciter à augmenter la taille des fermes et de prendre un peu le contrôle sur la distribution, sur les négociations avec les distributeurs et les... Ça, c'était pas une mauvaise idée. Ça a eu un effet d'enrichir effectivement, sensiblement, le milieu agricole. Mais évidemment, avec le temps, la question du syndicat unique a fait en sorte que le syndicat est devenu tellement puissant qu'il est difficile à faire bouger. Alors, les méthodes d'agriculture, avec toute la pression qui a été mise avec les années par l'agriculture, les engrais, les équipements et plein d'autres choses comme ça, ben, on voit qu'il y a des côtés pervers à ça, mais le système est pas facile à faire retourner parce qu'il y a des gens qui ont tellement investi là-dedans, qui sont endettés par-dessus leur tête, alors tu peux pas leur demander demain d'arrêter ce genre de production-là, de devenir
vieux,
de faire du sarclage à la main.
Ouais, puis dans le fond, on transiterait dans une autre de mes questions qui est un peu. J'aimerais ça vous entendre un peu sur comme faire un petit portrait là, des FUSA aujourd'hui au Québec. Fait que, c'est combien en a, si on est capable de le compter, est-ce qu'elles sont surtout localisées dans certaines régions, puis est-ce que c'est surtout les néo-ruraux là, qu'on appelle les personnes, c'est les jeunes qui ont pas un historique familial agricole, puis qui vont en région, puis qui se partent un projet, est-ce que c'est comme surtout ces personnes-là?
Mais dans le cas des projets qu'on accompagne, en général, ils sont pas initiés par les producteurs eux-mêmes ou les nouveaux producteurs. C'est les propriétaires, dans la majorité des cas, qui ont créé un mode d'agriculture souvent biologique ou biodynamique et qui veulent pas que ça se perde. Alors, les premières FUSA ont été créées sur ce modèle-là, Cadet-Roussel, la FUSA des Vallons d'en haut, dans la Naudière, la FUSA de la Vallée des Prairies, dans Chaudière-Appalaches, la FUSA Sage-Terre au Bic. Alors, plusieurs de ces FUSA-là, c'est la vision des propriétaires qui se sont dit, ben, nous, on est rendu à l'âge de prendre notre retraite et on veut qu'il y ait un mode d'utilisation de la terre et de partage avec la communauté qui perdure. Maintenant, les nouvelles FUSA ont pris d'autres chemins qui sont aussi très intéressants où il y a des FUSA qui sont amenés par la communauté. Donc, une communauté qui décide d'acquérir une terre à proximité pour nourrir sa population, pour répondre à des besoins en sécurité alimentaire, pour répondre à des besoins d'accès à la terre pour la relève du coin, qui a pour effet ensuite, boule de neige, de vitaliser les commerces locaux, la transformation locale et des choses comme ça. Ça, on en voit aussi qui émergent un peu partout. Le projet 33 hectares à Mascouche est un très, très bon exemple de ça, où c'est la communauté qui se mobilise pour faire installer des fermiers de proximité et en profiter pour résoudre un certain nombre de problèmes locaux. Alors, est-ce que c'est où au Québec? C'est un peu partout au Québec. Hein. On a parlé de Chaudière-Appalaches, La Naudière, Montérégie. Il y en a une dans les cantons de l'Est près de Coaticook. Il y en a une dans la région de Vaudreuil-Dorion. Puis, on travaille avec des projets un peu partout ailleurs dans la province. Il y en a officiellement, nous, qu'on a aidé à créer. Il y en a 7 en ce moment. Il y a 2 autres fiducies d'utilité sociale agricole qui ont été créées par l'UPA. Une autour des terres, autour de la station terminale du Rennes à Brossard, en compensation de l'utilisation de la terre agricole donc, qui a été faite par la Caisse de dépôt pour la ville de Brossard pour installer la future station du Rennes. Donc, il y a une fiducie qui a été créée pour acheter des terres dans le coin pour compenser cet usage-là.
Ah ouais.
Et il y a aussi l'UPA avec Fonds d'action qui a créé une fiducie pour acheter des terres, puis là, essentiellement dans le but d'aider la relève à s'installer. Alors, leur mission est plus restreinte que celle de protecteur. Puis eux, c'est une grande fiducie provinciale. Donc, une fiducie qui va avoir plusieurs terres pour aider la relève à s'installer et ça fonctionne uniquement par ensuite la location de ces terres-là aux producteurs. Donc, un modèle qui est intéressant, un modèle qui a aussi des moyens de financement qui sont identifiés, mais qui est quand même beaucoup plus restreint que le modèle que Protecteur a fait. Dans notre modèle, on veut donner la pleine autonomie aux producteurs, la sécurité de pouvoir produire et aussi, comme tu l'as mentionné, de pouvoir transmettre aussi son entreprise de génération en génération. Mmh. Alors, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'une fois que la terre est protégée, on crée une propriété superficielle, donc on morcelle le lot de la terre en deux. Tout le tréfonds, toute la terre est protégée par la fiducie d'utilité sociale et tout ce qui est au-dessus devient la propriété du producteur. Dans les bâtiments, les structures, le cheptel et tout ça, ça lui devient sa propriété avec un droit d'usage, une servitude réelle et perpétuelle de la terre en autant qu'il respecte l'affectation qui est donnée à la fiducie. Alors, dans cet esprit-là, en créant une fiducie d'utilité sociale, ils ramènent finalement la ressource en un commun. Alors, cette idée-là d'une ressource qui est maintenue, qui est nourrie et qui sert au bien commun, au bénéfice de la communauté, ainsi qu'à la relève, ben, c'est cette nouvelle vision-là, qui n'est pas si nouvelle que ça, parce que pendant des siècles et des siècles, il y a des producteurs qui n'avaient pas de titre sur la terre qu'ils exploitaient. C'est encore le cas dans beaucoup d'endroits dans le monde. Ben, ils s'en servent quand même pour nourrir les gens puis pour avoir un gagne-pain. Ben, il y a ces deux visions-là qui soutiennent des projets de fusion. On reçoit des appels assez fréquemment de gens qui disent, bon, ben, moi, j'ai cette terre-là, on parle de terre, mais ça peut s'appliquer à des milieux naturels, une forêt, ou un lac, ou des choses comme ça, puis de dire, ben, je voudrais que ça puisse servir à la communauté, puis qu'il n'y ait pas des gens qui se le réservent le droit, puis qui empêchent les autres de pouvoir bénéficier de cette ressource-là. Alors ça, c'est vraiment ça qui est souvent est dans la vision des gens qui avec qui on travaille là, pour créer des puits. L'autre chose qui arrive, c'est que même dans les familles qui ont de la relève, et ça c'est aussi bien dans l'agriculture chimique que dans l'agriculture biologique, les propriétés valent maintenant tellement cher. Hein, on parlait tantôt des quotas laitiers, ben une ferme laitière avec une centaine de vaches dedans, ça vaut 10 millions maintenant. Alors même la relève, même si c'est ton fils ou ton neveu ou ils sont plusieurs à leur prendre, ils n'ont pas de capital pour acheter ça. Ça fait qu'il peut y avoir du transfert qui se fait de bon gré entre des parents et des enfants à un coût beaucoup moins, mais l'endettement est là aussi. Ces propriétés-là qui valent 5-10 millions de dollars, ils ont souvent des endettements qui sont en conséquence de plusieurs millions de dollars. Ça fait que la relève n'a pas nécessairement non plus les moyens de s'installer sur la ferme familiale. Ça fait que c'est un enjeu qui est quand même important, pas juste au Québec, un peu partout dans le monde. Comment faire ce transfert intergénérationnel pour que ce soit viable de génération en génération, puis la spéculation, puis on pourra parler de toute la structure du modèle agricole actuel ou industriel, fait en sorte que il n'y a presque pas de moyen de faire survivre la ferme familiale. Ça devient des entreprises souvent qui sont hors de contrôle même du milieu agricole, des investisseurs et on va appeler aussi des intégrateurs, des grandes compagnies qui vont investir dans plusieurs, dans une espèce de chaîne d'approvisionnement. Puis l'agriculteur devient une espèce d'employé à la merci un peu de ces grandes compagnies-là. C'est un drôle de modèle agricole là, quand on veut passer plutôt à nourrir son monde, puis à s'occuper de la terre, puis à être son propre patron, un petit peu, qui est souvent le but des jeunes, même s'ils se mettent souvent en groupe, là, il y a de plus en plus de coopératives agricoles, mais quand même, de pouvoir prendre des décisions et pas être à la merci des réseaux de distribution et tout ça.
On dirait que, mais là, c'est ça que je te disais, là, mais je viens de lire La ferme impossible, puis Dominique, dans Montagne, il déteste l'UPA, mais il est un peu libertarien, anyway. Bref, les idées que j'ai de l'UPA, je pense, sont comme un petit peu teintées par tout ce que je viens de lire récemment. Moi, je suis comme agréablement surprise de savoir que l'UPA est aussi comme investi à plus petite échelle, mais comme un intérêt pour ça, les fuseurs.
Ben, en tout cas, il y a toute une histoire un peu derrière ça, mais pour notre vision, à nous, protecteurs, l'UPA, c'est, même si c'est un syndicat unique avec ces fédérations et ces choses-là, c'est multiniveau et c'est assez complexe. Mmh. La plupart des projets de fusion sur lesquels on travaille, il y a souvent des représentants du PA régional ou des groupes, là, même souvent plus petits que régional, qui vont participer parce qu'ils trouvent le projet intéressant et qui voient comment ça peut aider leur communauté. L'implication de représentants du PA est souvent un bon moyen de faire avancer un projet étudiant parce que ces gens-là ont bien des contacts, ils sont vraiment intégrés au niveau de l'agriculture, de leur communauté, de ces choses-là, puis ils peuvent nous aider à faire en sorte qu'un projet se concrétise. Quand on monte dans la hiérarchie, ça devient souvent plus politique.
Ouais.
La haute direction de l'UPA n'est pas contre nécessairement l'agriculture bio ou des choses comme ça, mais sa vision est quand même orientée vers le modèle industriel, souvent voué à l'exportation, et en tout cas, beaucoup d'autres préoccupations que les petites chaînes familiales bio de proximité. On est agréablement surpris. Bien que ça n'a pas été une si grosse surprise que ça, que l'UPA se soit lié avec Fonds d'action pour créer ce modèle-là et qu'il la supporte. Alors, c'est un bon geste dans la bonne direction et on espère que ça va faire des petits d'une certaine façon parce que ça aide effectivement la relève à s'installer. Je peux parler, tu vois, je peux te donner un exemple qui est plus urbain en territoire agricole.
Puis ça, ben là, dans le fond, on parle d'une terre agricole dans un territoire qui est un peu plus comme urbain ou banlieusard, mais comment ça se transpose en ville? Comme les fiducies d'utilité sociale, mais là, qui sont plus agroécologiques, qui ont comme plus une fonction domiciliaire, si on veut. Parce que je disais aussi récemment, là, dans Un toit pour tous, qui est un autre, ou La lutte pour un toit pour tous, bref, qui est un autre livre d'éco-société qui, comme, retrace un peu. L'historique comme des grandes luttes pour l'accès au logement au Québec dans le dernier siècle. Puis il disait que dans les années comme 70-80, c'était comme un sujet dont on parlait pendant les élections provinciales et municipales, comme l'acquisition, si on veut, là, du sol urbain, donc au moins sur l'île de Montréal pour comme éviter là, la spéculation immobilière à ce niveau-là. C'est pas exactement là, une fiducie dont on parlait, mais comme c'est quand même ça. Ça connecte.
Déjà, dans le milieu urbain, avant même de passer du côté à habitation, quand on parle de préserver, par exemple, des milieux naturels, ou même des milieux nourriciers, pensons aux jardins communautaires. Les jardins communautaires en ville, ils appartiennent à la ville, ils sont prêtés, loués aux citoyens, mais il n'y a rien qui dit que la prochaine administration municipale, à un moment donné, ne va pas décider d'utiliser un de ces jardins-là pour faire n'importe quelle sorte de projet. Alors pourquoi qu'on ne pourrait pas les mettre dans les mains des citoyens, que la ville ne céderait pas ce terrain-là à une fiducie d'utilité sociale urbaine gérée par les citoyens pour pérenniser l'usage de jardins communautaires et collectifs en milieu. Donc, même cet usage-là nourricier pourrait très bien être fait au niveau de la ville. Puis c'est la même chose, si on regarde par exemple sur l'île de Montréal, il y a encore des terres agricoles dans l'ouest de l'île, des terres quand même d'assez bonne dimension, que ce soit sur l'île Bizarre ou à Sainte-Anne-de-Bellevue et ces choses-là. La ville veut les protéger, l'administration en place en ce moment veut s'assurer que ça demeure en agriculture et tout ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, avec toute la pression des promoteurs immobiliers. Alors, une façon de contrer ça, ce serait de les protéger au niveau de fiducie, ces terrains-là, en les acquérant bien. S'ils n'ont pas les moyens de les acheter, ils pourraient obtenir des servitudes. Les servitudes, c'est des biens réels qui peuvent servir à créer aussi des fiducies, des servitudes perpétuelles pour s'assurer qu'elles demeurent en production. Alors ça, c'est le côté agricole. Maintenant, si on tombe du côté d'habitation, c'est vraiment intéressant ce qui se passe en ce moment avec justement cette diffusion-là de la fiducie d'utilité sociale, des grands projets comme par exemple le site Louvain. Je ne sais pas si tu as entendu parler du site Louvain, qui est un site dans Antic, qui est situé sur des anciens ateliers municipaux, qui va être reconverti en quartier résidentiel. Dans ce projet-là, le groupe Solidarité Antic a proposé d'en faire une fiducie d'utilité sociale d'habitation urbaine. Alors, le projet qui se veut exemplaire au niveau d'avoir des habitations pour abordables, avec un environnement piste cyclable, terrain de jeu, services de proximité et ces choses-là, a accepté le design, si on veut, du projet, inclus, que ce soit un design inclusif avec les citoyens. Donc, Solidarité Antique fait partie du groupe de décideurs avec la ville, avec les professionnels et ces choses-là, pour en faire un projet qui risque bien d'être une fiducie foncière communautaire là, d'assez grande échelle ici à Montréal. Donc ça, c'est un très beau projet. Puis il y en a d'autres qui développent le projet dans l'HMS aussi pourrait très bien se faire de la même façon. Ou encore le développement de l'hippodrome Blue Bonnet. C'est des terrains maintenant qui appartiennent à la ville et au gouvernement du Québec, puis qui peuvent devenir des modèles en tant que développement immobilier au service des citoyens et géré par des citoyens. Évidemment, il y a des projets plus petits, là, des bâtiments et des choses comme ça aussi qui existent. Dans l'esprit de la fiducie foncière communautaire, on peut penser aussi à tout le projet Milton Park. Toutes les coopératives d'habitation près de McGill, même s'ils n'ont pas le nom de fiducie foncière communautaire ou de fiducie d'utilité sociale, parce que le projet a été réalisé plus tôt que ça, là, dans les années 80, et là, essentiellement, la structure d'une fiducie d'utilité sociale pour s'assurer que ces maisons-là, ces coopératives-là, demeurent abordables là, pendant très, très longtemps avec une structure de maintien des infrastructures et tout ça.
Mm-hmm.
Donc, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un très beau développement au niveau habitation qui peut se faire et qui est encore assez méconnu, mais qui tranquillement fait son chemin.
Ouais.
Une chose que les gens ne savent pas, par exemple, c'est que tout le développement Ingus dans le quartier là, où il y avait des anciennes shops Ingus dans Rosemont, là, ben, c'est sur une fiducie d'utilité sociale.
Ah ouais.
Le terrain maintenant est dans une fiducie d'utilité sociale. Ça faisait partie du deal quand Fonds d'Action a acheté les terres pour la Société de développement Ingus pour en faire un projet de développement commercial immobilier, que éventuellement ça devienne sur une fiducie d'utilité sociale. Ça a été fait il y a quelques années. Ah. Alors, c'est déjà en utilisation. Un autre des volets où ça pourrait prendre beaucoup d'importance, c'est pour la protection du patrimoine bâti.
Ouais.
Tous les édifices historiques, tous les autres monuments aussi, on peut parler à des œuvres d'art, des choses comme ça, peuvent être aussi protégés par des fiducies sociales parce qu'ils amènent un bénéfice aux citoyens, un bénéfice historique, un bénéfice souvent dans l'architecture de ce bâti-là et dans son histoire. Alors, il y en a des gens qui considèrent l'usage de la fiducie d'utilité sociale pour tout ce qui est patrimoine.
Ben oui.
Bâti, puis on pourrait même éventuellement parler de patrimoine immatériel. Le paradigme, c'est qu'au lieu que ces entités-là soient gérées par des administrations publiques et municipales, ben, qu'elles soient gérées par les citoyens.
Ouais.
À l'intérieur d'une fiducie d'utilité sociale, d'un conseil fiduciaire qui est représentatif des citoyens, qui peut être nommé par des entités citoyennes et qui a comme mission de pérenniser la vocation, l'affectation qu'on donne à ces biens-là, finalement.
OK, c'est génial. Ma peut-être dernière question, mais il y a comme beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes, dans comme le modèle des fusées et tout, mais pour moi, une des plus marquantes, c'est vraiment le fait que c'est un projet à perpétuité, que comme ça fige un peu. Mais ça fige pas parce que ça permet plein d'utilisations dynamiques, mais comme ça retire un peu ces terres-là du marché de la spéculation immobilière, puis ça fixe leur vocation dans le temps, en fait. Alors que il y a d'autres outils qui sont quand même chouettes, mais qui font pas ça. Si vous mentionnez, par exemple, les jardins communautaires, comme qu'est-ce qui nous garantit que si une autre administration municipale débarque et qu'elle je sais pas, les jardins lui plaisent moins, ben là, ça va juste être fini comme ça, ou même chose pour le zonage. C'est comme, qu'est-ce qui nous garantit pas qu'à un moment donné, il y a un gouvernement qui va vouloir construire un troisième lien puis dézoner des terres. En tout cas, fait que je pense que ma question, c'est juste que quand on parle de perpétuité, tu sais, c'est long, comment ça? Est-ce que c'est jusqu'à ce que notre système de droit change? Comment c'est long, la perpétuité?
C'est intéressant comme question parce que le concept de perpétuité, même au niveau des fiducies actuellement, des fiducies privées, est souvent limité à un certain nombre de générations. Par contre, quand on parle de la fiducie d'utilité sociale, comme il n'y a pas de propriétaire comme tel, le bien est à nous.
Of course,